توقيت.
Il est 17h sur Radio Orient. Bonsoir à tous. Votre rendez-vous d'information, Loïc Barrière. Sommaire de ce point d'actualité, la France à nouveau confrontée à la neige et au verglas. Demain, 38 départements ont été placés en vigilance orange. Une partie des vols prévus à Orly et Roissy seront annulés demain matin. L'ONU appelle Téhéran à laisser les Iraniens manifester pacifiquement. Notre dossier du jour sera consacré aux conséquences du froid sur les sans-abri avec Henriette Stenberg, secrétaire générale du Secours populaire français. Enfin, nous ferons le point sur la CAN avec Mounir Kamouri. Un nouvel épisode de neige prévu demain en France. Il faudra être prudent. 38 départements ont été placés en vigilance orange neige verglas par Météo France. Entre les Hauts-de-France, la région parisienne et le centre, les chutes de neige vont s'intensifier dès la matinée avec des cumuls pouvant atteindre 10 cm localement. Attention, si vous devez prendre l'avion demain, 40% des mouvements prévu demain entre 9h et 14h seront annulés à Roissy-Charles-de-Gaulle et 25% des mouvements seront annulés entre 6h et 13h à Orly. Des estimations données par le ministre des Transports qui a fortement conseillé aussi d'éviter tout déplacement routier demain en Ile-de-France. Le télétravail est préconisé par le gouvernement avec l'accord de l'employeur pour ceux qui le peuvent. Et puis en raison de la neige tombée hier, 5 personnes sont décédées aujourd'hui dans des accidents dans le sud-ouest et en Île-de-France. Le secrétaire général de l'ONU souligne la nécessité d'éviter d'autres victimes en Iran. Antonio Guterres estime que tous les individus doivent être autorisés à manifester pacifiquement. Au moins 12 personnes ont été tuées depuis le début de la contestation en Iran. Hier, la justice iranienne a prévenu qu'elle ne ferait preuve d'aucune indulgence envers les émeutiers. Cet après-midi, des dizaines de manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre dans le bazar de Téhéran. Le chef des séparatistes du Yémen se rendra dans la soirée en Arabie Saoudite. C'est ce qu'affirme un responsable du Conseil de transition du Sud, cité par l'AFP. Il affirme qu'il répond à l'invitation du ministre saoudien de la Défense. Le chef de la diplomatie israélienne est arrivé au Somaliland le 26 décembre. Israël est devenu le premier pays à reconnaître cette république que la Somalie estime faire partie de son territoire. Et puis en Cisjordanie occupée, des véhicules militaires israéliens sont entrés sur le campus de l'université de Bir Zeit. Au moins 5 personnes ont été blessées. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour face aux députés. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis qu'un débat aurait lieu au Parlement sur l'opération militaire américaine au Venezuela, opération qui a abouti à la capture de Nicolas Maduro. Faisant face aux critiques de l'opposition après la réaction d'Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu a estimé qu'il s'agissait d'une opération illégale.
La position de la France a d'abord été affirmée et exposée par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, puis par le tweet du président de la République, l'un allant avec l'autre. Et au fond, s'il faut le résumer, tout est illégal dans cette affaire. Le régime de Nicolas Maduro, le cycle électoral de 2024, l'opération militaire américaine qui contrevient à la Charte des Nations Unies. Je rappelle cette évidence, l'emploi de la force est possible en droit international, dès lors qu'elle est encadrée évidemment par la Charte. La France l'a fait évidemment dans le passé, notamment notamment dans la lutte contre le terrorisme. Alors évidemment, c'est pas parce que tout est illégal qu'il ne faut pas défendre nos valeurs et le droit international. C'est pas parce que nous sommes moins nombreux à le faire qu'il ne faut pas le faire. D'autant plus qu'il faut le faire pour nous-mêmes, nos propres valeurs, pour tous les pays aussi qui n'ont que le droit international comme arme et comme capacité à se défendre. Et je pense que vous avez parlé de notre relation aux États-Unis. Je reprendrai cette belle formule gaulo-mitterrandienne, au fond alliée mais non alignée. Et je crois qu'évidemment, elle trouve toute sa place dans cette circonstance. Ensuite, évidemment, ça pose la question de notre autonomie stratégique. Je crois que malheureusement, nous n'avons pas découvert cette réalité ni ces derniers jours, ni sous ce mandat de l'administration américaine. La question, elle est évidemment posée de manière plus globale.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu. Les températures chutent en France. Les premières victimes du froid sont les personnes sans abri ou celles qui vivent dans des habitations précaires. La secrétaire générale du Secours populaire français, Henriette Stenberg, lance un appel à la mobilisation.
Le Secours populaire ne peut évidemment pas couvrir l'ensemble des besoins, mais il peut faire tout le possible pour aider ceux et celles qu'il rencontre, et il lance un appel auprès de l'ensemble de la population, d'abord pour qu'elle se mobilise et qu'elle regarde autour d'elle si elle peut directement faire quelque chose, mais aussi pour que le Secours populaire, mais aussi les collègues puissent agir au mieux de leurs possibilités. Les services publics ont à le faire, mais nous savons à quel point la situation est préoccupante, et elle est aussi préoccupante dans des logements mal chauffés, pas chauffés, et ceci concerne la ville, mais aussi autour des villes et très lourdement nos campagnes.
Est-ce que vous demandez notamment à ce que l'État mette à disposition ces bâtiments vacants et réquisitionne les logements vides ?
Alors, Le Secours populaire ne va pas donner des indications concrètes, techniques à la puissance publique. Nous pensons qu'elle a les capacités de procéder à ces évaluations. Mais évidemment, nous demandons, et nous l'avons demandé dès les premières heures du froid, c'est pas juste maintenant, que soient ouverts tous les lieux chauffés pour pouvoir abriter les personnes qui sont dehors. Mais en même temps, il nous faut attirer l'attention, y compris de la puissance publique, et au premier chef de la puissance publique, sur les personnes qui sont en difficulté avec, on va dire, les entreprises qui fournissent de la chaleur et qui ont eu des difficultés à honorer leurs factures. Nous ne pouvons pas nous limiter aux personnes qui sont dans la rue, même si pour elles la situation est tragique. Il faut avoir une vision plus globale des conditions et des conséquences de la pauvreté dans notre pays pour les familles, pour les enfants, pour les personnes âgées, parce que personne n'en parle, mais quand elles ne peuvent pas payer le chauffage, ce n'est pas pour ça qu'elles vivent mieux. Et donc il y a vraiment un appel à la solidarité pour que ces questions soient prises en compte, et pas seulement lorsqu'il y a des temps sibériens. Mais quand il y a des temps sibériens, là il y a des mesures d'urgence complémentaires à prendre. C'est pas nous qui allons les dicter, c'est pas notre métier, mais en revanche nous appelons les uns et les autres à se sentir personnellement responsable de ce qu'il est possible de faire.
Lors d'une canicule, une des premières canicules significatives en France, la population avait été sensibilisée, et cet appel à la solidarité, notamment vis-à-vis des aînés, avait été lancé. Il y avait alors eu une prise de conscience. Est-ce cette même prise de conscience que vous appelez de vos voeux aujourd'hui ?
Absolument, absolument, bien sûr. Je veux dire, on peut mourir parce qu'on a soif et on a pris une insolation, mais on peut mourir et sans souffrir, ce qui veut dire qu'on n'a pas la possibilité d'alerter. Et donc il doit y avoir dans le voisinage des uns et des autres, nous savons qui peut être en difficulté. Et le fait de prendre, de tenir compte de son voisinage, des amis, de la parentèle étendue, que sais-je encore, ce doit être une préoccupation, si je puis dire, civique. Mais au-delà de la préoccupation personnelle des uns et des autres, et le Secours populaire y contribue directement, il y a la responsabilité de la puissance publique qui doit prendre en compte l'intégralité des populations, et pas à chaque fois, c'est seulement quand le problème se pose, que d'un seul coup on se dit « ah ben oui, on n'y avait pas pensé ». Ceci dit, si on n'y a pas pensé, il est tout juste temps de prendre les mesures qui sont nécessaires et qui appartiennent à la puissance publique.
Henriette Stenberg, la secrétaire générale du Secours populaire, au micro de François-Xavier de Calonne. Pour tout savoir sur la CAN, nous sommes à présent en ligne avec Mounir Kamouri. Bonsoir Mounir.
Bonsoir Loïc.
Alors on a vécu une soirée assez contrastée hier en huitième de finale. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces deux matchs, Égypte-Bénin et Nigeria-Mozambique?
Oui, deux matchs vraiment différents. L'Égypte a montré qu'elle savait souffrir. Bousculée par un Bénin courageux, elle s'en sort grâce à son expérience, ses leaders et l'incontournable Mohamed Salah, auteur désormais de 66 réalisations et qui n'est plus qu'à 3 unités de battre le record de buts en sélection détenu par Osama Hassan, légende du football égyptien. Le Nigeria, lui, à l'inverse, a envoyé un signal très fort avec cette victoire 4-0, maîtrise totale de l'intensité, de la qualité individuelle. Et c'est sans doute la prestation la plus impressionnante. Depuis le début de cette CAN, on a vu un favori assumer pleinement son statut au point de créer de petites tensions entre Ademola Lookman et son coéquipier Victor Osimhen, pas content qu'il ne lui fasse pas la passe sur une action de but.
Alors justement, en parlant du Nigeria, vous consacrez votre dossier du jour au conflit entre le Nigeria et la République démocratique du Congo devant la FIFA. Pourquoi ce dossier est-il explosif ?
Parce qu'on est au croisement du sport et du juridique. Le Nigeria conteste la qualification de joueurs congolais sur la question de la double nationalité et ce recours est toujours en cours. Si la RD Congo se qualifie ce soir, elle pourrait retrouver le Nigeria dès les quarts de finale de la CAN. On aurait alors un match où il ne serait plus seulement question de football, mais aussi de tension, de symboles et de règlement de compte. Et c'est ce qui rend ce dossier aussi sensible.
Et puis, dès vendredi, on assistera au premier quart de finale.
Oui, exactement. Déjà, dès ce soir, on connaîtra les dernières affiches des quarts. Et vendredi, ce sera le Mali face au Sénégal à 17h. Le Sénégal, champion d'Afrique 2021, arrive avec son statut de favori lui aussi. Mais le Mali n'a rien à perdre et surtout une capacité à faire déjouer les gros dans les matchs à élimination directe, comme ce fut le cas contre la Tunisie. Et à 20h, ce sera le Cameroun qui affrontera le Maroc. Les Lions de l'Atlas avancent avec la pression à chaque match. Un vrai test, donc, pour les Marocains. Le Cameroun, quant à lui, c'est parfait navigué dans ce genre de rendez-vous couperet et tentera de faire déjouer les hommes de Walid Regragui.
Merci Mounir Kamouri. On vous retrouve à 18h20 sur Radio Orient. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Excellente soirée à tous.